Merci bien sûr l'IPSEM de m'avoir convié à participer à cette journée, cette 15e journée consacrée à l'éducation thérapeutique, notamment en activité libérale. Alors, bien sûr, mon intervention va consister essentiellement en une expérience. Je vais vous rapporter une expérience qui était faite au niveau du réseau de diabétologie, mais j'ai aussi une activité libérale. Et pour revenir à ce que disait mon prédécesseur, M. Bouillot, je partage bien sûr ces vues, tout en soulignant que dans le bassin thionvillois, il y a en gros entre 8 et 10 000 patients diabétiques, que nous sommes deux diabétologues libéraux et que, bien entendu, pour prendre en charge sur le plan, on va dire, de l'activité, de l'éducation thérapeutique, ces 8 000 patients, avec mon ancien chef de service Michel Malaski, nous est apparu comme une évidence de rentrer ou de développer tout au moins, de façon expérimentale, comme on le signait tout à l'heure, une activité réseau. En espérant que ce que je vais vous rapporter sur notre activité réseau ne vous découragera pas à peut-être poursuivre ces activités, mais ça on en discutera au fur et à mesure du topo. Alors je vais vous rappeler simplement le contexte dans lequel s'est créé ce réseau. C'est un réseau qu'on appelle DiabCœur, qui est un réseau qui s'adressait à la fois aux patients diabétiques et aux patients atteints de maladies cardiovasculaires en prévention secondaire. Il s'est progressivement mis en place en 2001 pour devenir, comme la plupart des réseaux, effectifs en 2003, une fois que nous avions eu une dotation financière. Nous avons connu, comme à l'exemple de nombreux réseaux, notamment à thématique métabolique, des difficultés pour se développer, et notamment en raison du peu d'implication des médecins traitants, à la fois dans l'organisation et dans la participation de ces réseaux, pour des problèmes tout à fait multiples, et pour des raisons multiples, et notamment pour des problèmes de temps. Je dois vous dire qu'actuellement, nous tournons le dos avec le président, Michel Malaski, puisque ce réseau est actuellement en cours d'évaluation. Nous attendons depuis 48 heures pour savoir si des dotations, la DRDR, reconduira notre réseau pour une période de 3 ans, tout en sachant qu'à travers l'expérience que je vais vous rapporter, nous avons profondément modifié notre approche concernant la prise en charge de l'éducation thérapeutique et le développement dans le réseau. Alors les objectifs du réseau, ça je vais passer très rapidement, c'était essentiellement d'améliorer la santé et le confort de vie des diabétiques et d'améliorer notamment la survie des patients atteints de maladies cardiovasculaires en soulignant que nous avons une particularité française puisque dans le nord Lorraine, avec la région du nord, je crois Pas-de-Calais, c'est la région où nous mourons le plus de maladies cardiovasculaires puisque nous déclinons une surmortalité de 10%. Donc il nous semblait important d'envisager donc une prise en charge et la prise en charge sur le plan de l'éducation des facteurs de risque. Donc les buts, c'était essentiellement d'organiser. Et il faut noter qu'une des particularités aussi sur Thionville est que je dirige donc ce qu'on appelle l'unité thérapeutique et d'éducation du diabète, qui est une unité relativement reconnue sur le plan tout au moins régional, mais où la prise en charge est essentiellement, s'adresse essentiellement à des patients atteints de diabète de type 1, à des patients ayant des schémas relativement complexes. Et toute la partie, les 90% de patients diabétiques de type 2 n'étaient en fait n'est pas géré par la structure que je dirige. Sur le plan de la prévention des maladies cardiovasculaires, il faisait jour que dans les services de cardiologie du bassin thionvillois, la prise en charge des facteurs de risque en prévention secondaire était mal ou pas assurée. Tout ça donc a concordé à décliner plusieurs actions. L'action qui était commune un petit peu à l'ensemble des réseaux, c'était bien sûr l'action podologique, en sachant que nous avions suivi ce qui avait été décidé au niveau des réseaux sur le plan national, c'est-à-dire la forfaitisation des soins podologiques. Nous avons décliné une action de recours à l'insulinothérapie à domicile en réalisant des formations de binôme, c'est-à-dire on associe actuellement des formations associant infirmières libérales et médecins libéraux travaillant dans le même secteur géographique afin d'envisager une prise en charge plus effective de l'insulinothérapie. Campagne de sensibilisation à l'activité physique et enfin mise en place de formations de connaissances concernant la maladie diabétique. Mais l'élément important, bien sûr, c'était la base, la pierre angulaire de l'action du réseau, c'était de promouvoir l'éducation thérapeutique en médecine générale afin de permettre aux médecins généralistes d'éduquer son patient diabétique dès la découverte du diabète. Alors pour cela, nous avons donc mis en place des formations à l'éducation thérapeutique. Ces formations devaient permettre aux professionnels de santé de pouvoir proposer à leurs patients diabétiques des séances d'éducation thérapeutique individuelles ou en groupe, ces séances bénéficiant de rémunérations spécifiques dérogatoires, ce qui, à mon sens, est un élément important pour répondre à ce que disait mon précédent orateur, c'est-à-dire que les réseaux doivent nous permettre justement de pouvoir utiliser des niches forfaitaires pour développer ces actions d'activité thérapeutique. Alors, le contexte. En 2005, deux sessions ont été consacrées à la mise en pratique de l'éducation thérapeutique dans le diabète de type 2. Ces sessions avaient été décomposées en deux parties, puisque nous sommes partis de l'idée que pour accéder et pour pouvoir envisager de l'éducation auprès de son patient, il fallait avoir une bonne connaissance de la maladie. Et donc, nous avions fait deux parties. Une partie de réactualisation des connaissances dans le diabète de type 2, dont mon association de formation médicale avait assuré la première partie. Et la deuxième partie, qui avait été animée par nos amis Rémi Gagnère et Pierre-Yves Trénard de l'IPSEM. En 2005, 36 professionnels de santé ont bénéficié de ces formations, 11 médecins généralistes, 12 infirmières libérales, 10 pharmaciens, 2 podologues, 1 diététicien libéral, le tout est égal à 36. Et le 37e, c'est le diététicien hospitalier qui est mon partenaire, mon collègue et mon ami, François Zito, sans qui je ne pourrais rien faire s'il n'était pas à mes côtés. Ces formations ont été indemnisées pour les professionnels de santé sur une base forfaitaire. À l'issue de ces formations, globalement, 80% des participants étaient satisfaits ou très satisfaits et y voyaient un intérêt pour leur pratique professionnelle. Ça, c'était à la sortie des formations. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres, c'est un petit peu moins encourageant. En 2005, sur les 36 professionnels qui ont été formés, 16 séances individuelles d'éducation thérapeutique ont été réalisées par les médecins, dont 8 par les médecins généralistes, dont 2 à eux seuls ont réalisé 7 séances d'éducation. Et parmi ces 8 médecins, 5 médecins avaient suivi leur formation initiale. C'est-à-dire que, grosso modo, sur les 11 médecins formés, 11 médecins, il y en a 6 ou 7 qui ont fait une séance d'éducation thérapeutique, plus ou moins, auprès de leurs patients. Il faut savoir que les 3 médecins qui n'ont pas suivi la formation n'ont pas pu être évalués a posteriori. On n'a pas su la formation ou ce qui était dit aux patients, puisque nous n'avions pas prévu en fait, d'évaluation a posteriori de ce qui avait été dit aux patients et d'évaluer le post-acquis. Alors, si on compare ça en 2005 aux 219 patients inclus, c'est-à-dire qu'on considère, et à partir du moment où on considérait que tout patient inclus dans le réseau devait avoir une séance d'éducation, donc si on regarde bien, il y a eu 16 séances qui ont été données sur 219 patients inclus, c'est-à-dire que grosso modo, seuls 13 patients des patients inclus dans le réseau ont bénéficié de cette séance d'éducation thérapeutique, en sachant que cette séance thérapeutique était une condition sine qua non pour entrer dans le réseau. La diététicienne libérale, qui elle pouvait avoir accès aussi à ces séances d'éducation thérapeutique sur le versant purement diététique, a réalisé 35 séances d'éducation thérapeutique, ce qui s'adresse donc à 29 patients, des patients inclus. Et en fait, aucune séance d'éducation thérapeutique n'a en fait été réalisée en 2005, contrairement à ce qui est marqué dans le rapport que j'avais fait, où c'est une séance d'éducation thérapeutique par le pharmacien en 2006. Alors on s'est dit, c'est 2005, ça a débuté, on va regarder ce qui se passe en 2006, et ça se termine maintenant. Donc en fait, en 2006, sur les 118 patients nouvellement inclus, seuls 7% des patients nouvellement inclus ont bénéficié d'une séance d'éducation thérapeutique. Alors, tout ça devrait nous conduire à nous dire, on ferme la porte et puis on s'en va. Parce qu'après tout, on ne va pas aller plus loin. On a consacré quand même énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent pour pouvoir développer et promouvoir ces séances d'éducation thérapeutique. Je crois que ça nous a permis, avec Michel Malinsky, de prendre du recul, d'analyser un petit peu la raison des échecs et d'y trouver des pistes pour l'avenir. Alors, je crois que la première des choses, et je crois qu'on en a discuté un petit peu précédemment, c'est que l'éducation thérapeutique, on s'est aperçu que c'était une notion mal, voire non maîtrisée par les professionnels de santé, rien que dans le terme. Éducation thérapeutique, la plupart des collègues médecins considèrent que c'est une spécialité à part entière et que faire de l'éducation thérapeutique, c'est comme faire de la néphrologie, faire de la cardiologie. Il faut véritablement avoir un diplôme. Alors c'est vrai que je crois qu'il faut qu'on fasse attention. L'IPSEM doit être, à mon avis, un vivier pour réfléchir sur ce fossé qui existe entre l'ignorance de 90% de nos collègues en termes d'éducation thérapeutique, à la volonté d'autres d'être, alors ce que j'appelle éducatologue, je ne veux absolument pas mettre une pierre dans le jardin, mais vouloir faire de l'éducation thérapeutique quelque chose de tout à fait à part. Je crois que ça a été peut-être à un moment donné utile d'identifier l'éducation thérapeutique comme une pratique particulière permettant, et c'était bien décliné tout à l'heure en termes de santé publique, de véritablement de marquer l'éducation thérapeutique comme un élément indispensable de développement dans les équipes médicales. Mais je crois qu'il faut de plus en plus l'intégrer tout simplement au processus de soins, que ça soit quelque chose qui soit intégré à la fois dans le soin et dans l'évolution de la maladie, que l'éducation soit quelque chose de naturel. Et c'est pour ça que nous avons débaptisé l'unité que je dirige, qui s'appelait Unité d'éducation du diabète, en Unité thérapeutique et d'éducation du diabète, volontairement pour bien montrer notre volonté d'intégrer l'éducation à une pratique de soins. Alors, si on regarde bien, j'en reviens un petit peu sur cette notion. Eh ben, lorsque nous avons développé cette notion d'éducation thérapeutique dans le réseau, on s'est aperçu qu'énormément, 90-95% des médecins, notamment des médecins traitants, ignoraient totalement ce qu'était la notion d'éducation thérapeutique. La plupart ne savaient pas ce que cela représentait. Et pour les autres, l'éducation thérapeutique signifiait le soin par l'éducation. On n'allait pas plus loin. Mais tous étaient d'accord, et ça a été de longues discussions pour essayer de développer cette éducation thérapeutique dans le réseau. Tous étaient d'accord que cela était preneur de temps, qu'on n'avait pas le temps, que c'était impossible de faire de l'éducation et de la consultation en même temps, qu'il y avait une sorte de dichotomie entre le soin primaire et l'éducation, et c'est là-dessus, je crois, qu'il faudra travailler.
Il va rester effectivement 2 minutes.
J'accélère là. Ouais. Donc. Autre chose, autre échec, c'est en fait dans cet objectif du réseau, ce sont les diabétologues qui ont défini comme objectif la diffusion de l'éducation thérapeutique dans le réseau. En fait, les médecins généralistes, les médecins traitants, nos collègues ont été peu intégrés dans ce processus, voire même pour certains indifférents. C'est-à-dire que nous voulions développer l'éducation thérapeutique, les médecins traitants participant à l'activité du réseau étaient en fait peu intégrés dans ce processus et à chaque fois revenaient à quoi ça sert dans nos pratiques quotidiennes. Alors, formation éducation thérapeutique, et ça c'est aussi un petit peu une pierre pour nous. La plupart des médecins ont considéré que ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils avaient écouté à travers les deux sessions et le double partenariat Amfredia et IPSEM, que c'était très bien, mais que c'était excessivement abstrait et qu'ils n'arrivaient pas, qu'ils ne savaient pas mettre en pratique en fait ce qui avait été enseigné. Alors, prestations d'éducation thérapeutique dispensées en priorité ou sur prescription du médecin généraliste, ça manifestement, ça a été un frein considérable à la dispense des séances d'éducation thérapeutique, puisque seul le médecin généraliste ou traitant pouvait dispenser de l'éducation thérapeutique ou désigner éventuellement en son remplacement une infirmière libérale. Or, comme peu de médecins ont intégré la notion d'éducation thérapeutique, c'était un frein considérable à ce que les patients bénéficient de cette éducation thérapeutique. Et à contrario, les séances d'éducation nutritionnelle dispensées par la diététicienne, ne dépendant pas d'une prescription du médecin, ont été beaucoup plus nombreuses. Alors, quelle réponse apporter? Alors, je vais aller vite. Je pense qu'il faut intégrer l'éducation thérapeutique dans le cursus médical. Ça a été dit, ça a été redit. Je crois que véritablement, il faut un enseignement dans les facultés de médecine qui renforce en fait la dimension humaniste du médecin. On en discutait hier soir. L'éducation thérapeutique doit être indissociable du soin technique en l'intégrant dans toute démarche thérapeutique. Il faut absolument que le contenant, j'appelle ça le contenu, soit adapté. Et je prendrai simplement comme exemple le travail que nous avons fait sur la région Thionville-Oise sur le diabète gestationnel, où il y a tout un travail qui a été mis en chantier en 1999. Et 2 ans après, 3 000 parturientes sont dépistées annuellement au niveau du diabète gestationnel, puisqu'il y avait véritablement un objectif commun entre médecins traitants, diététiciens, sages-femmes, gynécologues. Et depuis 5 ans, je dirige cette unité. Nous avons 250 femmes qui sont traitées dans notre unité. Un recours plus important aux paramédicaux en ce qui concerne l'éducation thérapeutique. Alors, ça ne va absolument pas à l'encontre de ce que disait M. Bouillot, puisque je suis moi-même diabétologue libéral. Je crois que manifestement, il y a une place pour les paramédicaux dans la prise en charge de l'éducation thérapeutique. Et je crois que véritablement, nous essayons, et c'est la réponse que nous allons apporter sur le bassin turvillois, de créer en fait un espace géographique qui s'appellera Synergie Santé, dont je suis le coordinateur, afin de créer une structure permettant de décentraliser en fait toute l'éducation thérapeutique de l'hôpital sur la ville. En définitive, l'éducation thérapeutique, processus indispensable dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, souffre un peu de l'image qu'elle véhicule, un peu trop confidentielle et élitiste, réservée à quelques équipes soignantes de pointe dans leur domaine. Elle doit donc se démocratiser. Il faut véritablement qu'elle rentre un petit peu dans le langage courant en médecine. L'éducation thérapeutique ne doit plus être considérée comme une prise en charge exceptionnelle, mais faire partie intégrante d'un processus de soins dès le début de l'affection. Les réseaux de soins doivent en être les vecteurs. Alors ça, j'en suis convaincu, quelle que soit l'évolution qui sera donnée au réseau de soins, je pense que ça sera les réseaux ou 6000 réseaux, je pense que ça sera, c'est une réponse. Les réseaux de soins sont faits pour développer l'éducation thérapeutique. Les formations consacrées à l'éducation thérapeutique proposées aux professionnels de santé doivent être concrètes, intégrant à la fois des processus de soins et des processus éducatifs. Et ça, on l'a très bien vu, puisque Pierre-Yves Trénard est venu travailler avec nous sur la mise en place de la sinothérapie à domicile en y intégrant la dimension éducative. La diffusion de l'éducation thérapeutique doit reposer en priorité pour le moment sur les paramédicaux, infirmiers, diététiciens, pharmaciens, podologues, en n'oubliant pas bien sûr les diabétologues libéraux, mais tout en sachant que nous sommes en nombre limité pour pouvoir en fait accueillir les 3 millions de diabétiques qui existent en France, tout en insistant la nécessité d'introduire dans le cursus médical une approche sur l'éducation thérapeutique. Je vous remercie.